Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La conspiration.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. 92.1, c'est encore notre jingle vintage qui nous le dit, mais c'est aussi en DAB+, et sur internet radiocampus.be pour nous écouter. Écoutez notamment La Conspiration des Planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Avec moi en studio, Sabine. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Elisabeth, bonsoir tout le monde.
Et bonsoir Elisabeth.
Et bonsoir.
Avec ses lunettes robotiques presque comme ça.
Écoute, elles ne sont pas équipées d'IA ou elles ne vous enregistrent pas.
Ça va très bien. En tout cas, nous, ce qu'on a enregistré, c'est les spectacles de la semaine. C'est ouais. Bâtir de Salim Jaferi. Vous ne pourrez plus le voir pour le moment, mais ça revient et c'est pour ça qu'on vous en parle pour clore aussi le Kunsten Festival des Arts. Plongé dans l'époque des Zazou avec, au Théâtre Le Public avec Zazou des Lendemains qui chante. Ça chante, Elisabeth ?
Ça chante absolument et ça danse aussi.
Voilà. Une reprise aussi dont on va, sur laquelle on va revenir, c'est Portrait de Rita, de retour pour quelques sessions au Rideau de Bruxelles. Et puis on jettera un petit coup d'œil sur les annonces à venir. Mais Sabine, on va d'abord commencer par cette clôture du Kunsten Festival des Arts. Et l'un des derniers spectacles de cette édition, c'était Bâtir de Salim Jaferi.
Oui, c'était un spectacle qui était très attendu aussi. Hein,
un deuxième.
Notamment, voilà, par toutes celles et ceux qui avaient vu son premier spectacle de Salim Jaferi. C'était Colonisation, il y a quelques années. Et dans ce spectacle, qui est là aussi très, très intéressant, qui ne nous laisse pas indemne, hein, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses, et qu'il change un peu notre regard, j'allais dire, sur le monde tel qu'il va, ou plutôt sur le monde tel qu'il ne va pas. C'est un lien que je ferai aussi avec le spectacle dont on parlera plus tard, celui de Lorraine Marx et Banga Pilipili, Portrait de Rita. Alors de quoi est-ce qu'il nous parle cette fois-ci Salim Jaferi? Donc dans Colonisation, il interrogeait le lien entre la colonisation et le langage et l'identité. Et il poursuit cette quête, qui est donc une quête à la fois intime et puis une quête évidemment sur l'histoire et sur l'histoire de la colonisation. Il la poursuit cette fois-ci en s'intéressant aux banlieues françaises et à ce qu'on appelle les grands ensembles, les cités HLM, qui sont d'ailleurs les cités dans lesquelles il a grandi. Et quand il était petit, c'est ce qu'il explique d'ailleurs, il aimait bien vivre dans ces grands ensembles. En l'occurrence, la sienne s'appelle, parce qu'elle porte toutes des noms, ces cités. La sienne, c'était la cité des Beaudottes à Sevran, c'est-à-dire que c'est la banlieue parisienne, hein, c'est à quelques kilomètres de Paris et ce sont des banlieues qui sont séparées de Paris. C'est la grande différence avec la situation à Bruxelles par le périphérique. Et puis, il s'est rendu compte, petit à petit, en grandissant, qu'il y avait quand même un problème dans la manière dont on faisait habiter les gens dans ces cités. Et puis surtout, et ça j'ai trouvé vraiment très très intéressant parce que je ne le savais pas du tout, donc il a commencé à mener l'enquête en fait au départ du témoignage de sa maman sur la manière dont elle est arrivée dans cette cité, dans la manière dont ils y ont vécu, comment les logements ont été attribués, etc. Mais surtout ce qu'il montre, c'est qu'il découvre, et c'est l'enquête démarre de là, que ces cités HLM françaises, en fait elles sont construites sur le modèle des cités coloniales en Algérie.
Des cités voilà. Qui organisaient déjà la société là-bas.
La ségrégation là-bas. Donc, c'est des cités qui portent le doux nom de... Ça, c'est frappant. Il y en a une qui s'appelle la cité Climat de France.
Oui.
Et l'autre, c'était la cité des promesses tenues.
Oui.
Et en fait, les populations sont ségrégées dans ces cités. Mmh. Il y a d'une part les Français d'Algérie, et puis d'autre part, ce qu'on appelait hein, les indigènes. Et en fait, il se rend compte que cette ségrégation, bah, elle est la même dans les banlieues françaises.
Parce que qui avait vu sur mer ?
Parce que qui avait vu sur mer ? Bah, on vous le donne en mille. C'était pas les indigènes.
Voilà.
Voilà, et donc, alors voilà, d'une part, il y a ce contenu qui est évidemment très fort et très prenant. Et puis, il y a toujours ce talent incroyable de Salim Jaffiri dans l'écriture, qui est à la fois une écriture ciselée, qui a une apparence de grande simplicité comme ça, hein, mais il dit des mots, waouh, il les envoie. Il a une manière de capter son public par un ton qui est un petit peu à la limite de l'ironie, comme ça. Hein, je vais vous raconter quelque chose de très simple. Et en fait, ce qu'il nous raconte est très fort, nous bouscule et nous remet en question, évidemment. Et puis alors, il y a aussi, mais je te laisse aussi, puisque on a vu toutes les deux, tous les deux cette pièce, il y a sa manière d'être aussi sur le plateau. Ouais.
Mais tu parlais d'abord des mots, et c'est vrai que déjà dans Colonisation, tout partait d'un mot. Colonisation, et ici les mots ont aussi leur importance. Comment aussi le langage administratif vient nommer les choses, vient dissimuler la ségrégation.
Vient fabriquer aussi, vient procéder, produire la ségrégation.
Alors on ne va pas refaire toute la démonstration du spectacle, mais on sait pourquoi, ou en tout cas on sait ce qui se cache derrière les expressions F2, F3, F4, F5. Vous savez, toute cette dénomination, cette typologie des appartements.
Ça veut dire deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres.
Et il se cache une grille de lecture derrière tout ça qui est beaucoup moins... fonctionnelle, on va dire, mais beaucoup plus porteuse de sens et politique et idéologique là-dedans. Parce qu'en fait, la force de Salim Jaffiri, c'est vraiment ici de nous montrer une enquête qu'il a partagée avec d'autres. Il est allé à la rencontre de chercheurs et c'est ces paroles-là qu'il vient aussi porter sur le plateau. Et là, j'embraye, je te laisse embrayer, il vient les porter sur le plateau avec un talent assez fou au niveau de la scénographie et du mouvement.
Ouais, alors juste pour terminer sur ce que tu disais, avec justement, c'est parce que donc il va rencontrer notamment des urbanistes ou des sociologues de la ville, comme ce Janoé Vulbeau, qui a travaillé précisément sur cette question-là. Et donc, il montre que, en fait, dans des circulaires, les responsables d'attribution de logements en banlieue, notamment de ces HLM, avait fait tout un classement en fonction de, sans le dire, évidemment,
mais parallèle,
en
fait,
manière, voilà, parallèle en fonction de l'origine ethnique.
Sur des annotations, voilà, qui ne figuraient pas sur le document départ, voilà, et que ça, après, on met des initiales. Mais ça, c'est à découvrir pour toute cette signification, parce qu'il faut laisser un petit peu...
Oui, bien sûr, c'est vrai, il faut pas tout raconter, évidemment. Et alors, effectivement, dans cette scéno, dans cette scénographie, dans la manière dont il bouge et dont il est au plateau et dont il se meut dans ce décor. Donc c'est un décor, là aussi, très sobre. Il y a des rideaux, et puis alors, vraiment, ce côté très, très astucieux qu'on aime vraiment beaucoup chez Salim Jaffiri, c'est qu'il va manipuler des petits objets, en l'occurrence, des espèces de boîtes dans lesquelles qui peuvent représenter plein de choses. Ça peut être à la fois des boîtes d'archives, ça représente évidemment les tours et les bars dans lesquels il a habité et dont il parle. Et puis aussi, il a cette manière de bouger et de faire des gestes avec son corps, et ça fait évidemment penser à une de ses grandes complice, hein, Adeline Rosenstein, qui est aussi metteuse en scène, et il a joué dans certaines de ses pièces, dont Laboratoire Poison, qui s'intéresse aussi à la colonisation d'ailleurs. Et en faisant des gestes très répétés, très marqués, notamment avec ses bras, il crée une espèce de repère et de référence par rapport à ce qu'il dit.
Et soulève aussi une autre question, celle de l'identité queer, et de, sans en dire plus, parce que ça se découvre et on se dit, mais voilà, elle est là l'astuce, parce qu'il y a une espèce de puzzle comme ça qui se construit petit à petit et qui est refait à la fin, comme ça, qui est assez vertigineux.
Ouais, et peut-être dernière chose, hein, sans déflorer encore une fois, parce que ça se découvre en live, mais il y a comme ça quelques moments, dont une scène, je crois que tu sauras à quoi je fais référence. Il revient à la cité de Beaudot et il se passe un truc à ce moment-là, et c'est vrai, c'est un moment d'actualité qu'a connu la cité, et là il arrive à mettre ça en forme, en image, en son, avec son complice sur scène d'ailleurs, Sacha Martelly,
ouais. Oui.
Et c'est tout ça est très fort et à la fois donc évidemment ce qu'il raconte est terrible, mais il le raconte donc d'abord avec une justesse et une précision, c'est ça aussi, hein, c'est très précis tout ce qu'il raconte.
Oui, c'est ça.
Mais aussi avec cette ironie qui fait que qui fait que ça marche, en tout cas pour moi. Voilà.
Voilà, donc on rappelle, Bâtir, c'est fini pour le moment, mais ça aura les honneurs du Inn d'Avignon cet été, donc pendant quasiment tout le mois de juillet, enfin il va une quinzaine de 10 jours, je crois, en représentation. Et ça revient chez nous. Alors là, il faut être un petit peu plus patient. Ce sera au Hall de Scarbec en janvier 2027 pour les 14 et les 15 janvier. Mais à mon avis, ce ne sont que les premières dates de cette tournée.
En effet.
Voilà. www.deja.hall.be pour avoir les infos. Et vous pouvez déjà réserver vos places pour ce spectacle en janvier 2027 parce que le théâtre, c'est comme ça. Ça ne s'attend pas. Elisabeth, alors tout autre style.
Tout autre style.
mais il faut, points, voilà.
Non, c'est des points communs quand même parce que c'est parler de la société quand même.
Alors, je resitue le décor. On est au Théâtre Le Public pour le spectacle des Zazou, des lendemains qui chantent.
Oui, et alors si je vous dis sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la liberté, j'écris ton nom. C'est quoi le nom ? C'est la liberté, évidemment. Et en fait, ce spectacle qui est un spectacle immersif, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, nous ressuscite un petit peu cette atmosphère. Ce poème d'Éluard a été écrit en 1942. Et on est dans les années 40 où la jeunesse, elle sentait quand même un petit peu un manque de liberté quelque part. Et on se trouve comme ça dans une cave. Et puis, il y a quelques jeunes qui sont là et puis qui, insensiblement, comme ça, nous emmènent au début, aux prémices de ce mouvement Zazou qui, moi je ne savais pas, mais ça me semblait un peu parisien dans le truc. Mais c'était quand même un peu plus large que ça. C'était international, il y en avait même en Allemagne. Et en fait, c'était et dans les lycées et dans les unifs, une sorte de résistance à la fois pacifiste, pas tout à fait passive non plus, puisqu'ils allaient dans les salles de cinéma et chahutaient les actualités. Ils avaient évidemment des signes de ralliement, c'était un parapluie qu'on n'ouvrait pas.
Donc ça va plus loin de ce qu'on a peut-être comme image d'insouciance et de vie légère.
C'était très politique.
Tout à fait, mais une espèce de petite nébuleuse comme ça qui ne dit pas son nom et qui finalement emmerdait bien, je me permets le terme, le régime de Vichy à l'époque. Alors comment est-ce que c'est proposé sur scène ? Ben, c'est pas tellement au départ d'une situation bien ficelée avec des personnages qu'on situe. On y va vraiment franco. Et ça se met à danser dès les 5 premières minutes du spectacle, en fait, puisque ce mouvement est quand même indissociable du swing, de la musique qui trouve ses racines dans les combats afro, aux États-Unis, l'esclavage et tout ça. Donc on a vraiment toute la montée comme ça de ce qui n'était pas encore vraiment le jazz, mais vraiment le premier swing. Et on voit ces jeunes se dire finalement, oui, nous, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et toute l'histoire de ce mouvement nous est racontée à travers... Mais c'est pour ça que je pense que c'est immersif, parce que on ne nous l'explique pas, c'est pas didactique, simplement ça se chante, ça se danse. Et on en a sur le plateau, ils sont 5. Et des comédiens et comédiennes qui font tout, en fait.
Qui manient la chanson, la danse.
Les danses sont d'époque aussi, mais aussi de la musique aussi, puisqu'on a un pianiste. Donc il y a un des comédiens qui est soit au piano, soit à la guitare. Il a une toute petite partition plus théâtrale. On a Bénédicte Chabot qui sort son violon et qui nous joue un petit morceau comme ça. Et puis 3 minutes après, elle fait le grand écart. Donc c'est vraiment un spectacle avec, je dirais, 85% de danse, de chant.
Et puis, on trouve notamment Antoine Guillaume, Lorgodi Ziabois, qu'on connaît dans ce genre d'exercice aussi.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment, on sent qu'il y a aussi une cohérence, qu'ils ont travaillé le chant, qu'ils ont travaillé la danse. Mais ça, en même temps, c'est pas creux et ça nous ramène à cette époque-là, ça nous ramène à la notion de résistance et ça se conclut sur la volonté de goûter à la liberté.
Et tu penses que, tiens, ça dit quelque chose aussi de l'époque actuelle?
Probable, oui, parce que moi ça m'éveille la volonté de résister quand même.
Ouais, mais tu penses qu'il y a ça aussi qui traverse le spectacle?
Je sais pas si je pense que c'était C'est vraiment en filigrane aussi, parce que la volonté est vraiment de nous plonger dans l'espace. Que ce soit dans la musique qui est choisie, que ce soit dans les costumes, évidemment, puisque les Azous avaient un code vestimentaire tout à fait affirmé. Ils avaient des vestes un peu longues, des carreaux un peu partout.
Qui est respecté sur le plateau.
Les Azous, d'ailleurs.
Et puis, ils avaient les auteurs dont ils étaient fans, ils avaient les chanteurs dont ils étaient fans. Et ce qui apparaît aussi dans toute cette... évocation, c'est quand même aussi des moments de tension qui sont là. On est quand même au théâtre, donc il y a des moments de parce qu'il y a eu une oppression aussi des Azous. Et ça, on n'y pense pas non plus, parce qu'évidemment, ils dérangeaient sans déranger, ils ne faisaient rien, mais en même temps, ils faisaient quand même chier. Donc, c'était un peu le but. Et puis, il y a tout ça qui est là, et c'est vrai que l'époque actuelle, oui, mais c'est plus en filigrane, je dirais.
Baptiste Blampin, Bénédicte Chabot, Laure Godizia-Bois, Antoine Guillaume, Cédric Raymond sur la scène du Théâtre Le Public pour Zazou des Lendemains qui chante, un spectacle écrit par Laure Godizia-Bois et Patricia Hyde, oui. Qui met en scène également.
Voilà, donc, qu'on retrouvera également au mois d'août, je pense.
C'est à voir jusqu'au 4 juillet, voilà. Déjà. Petite pause. C'est déjà annoncé comme un des succès du public de cette année. Donc voilà, ce sera repris, comme vous le disiez. Elisabeth, rendez-vous sur théâtrelepublic.be pour toutes les infos. Et moi, je vous propose c'est de rester dans les Azous le temps de la pause musicale. Ça va ? À tout de suite.
Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah,
ils sont zazous.
Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre.
Ah, ils sont zazous.
Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout.
Ils ont l'air dégoûtés de tous ces petits agités.
Oh,
ils sont zazous.
Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de l'église de testament. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes Azous s'écrièrent en apercevant
ce qu'il fait distinguer son col haut de 18 pieds.
Oh.
Puisqu'il est Azous. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne par terre.
Oh,
ce qui les Azous.
Il ne se doutait pas, ce très digne notaire, qu'il pouvait être à ce point Azous. Car tous ses vêtements lui venaient de son grand-père, le col de veston et tout.
Il fut tout étonné de se voir ainsi remarqué par tous les Azous.
De retour chez lui, le notaire sidérait tous ses amis. Et il marchait que le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien pis. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son toutou. Enfin toute la famille, tout le monde devint Azous. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous.
En les voyant passer, les braves gens s'écriaient,
tiens, voilà les Azous.
Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit
mais ils sont Azous. C'est une maladie un peu particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grands-mères, puis se regardant il dit tiens,
mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis Azous. Comme le notaire, mon veston traîne par terre, mais donc, mais je suis Azous.
Et si ce n'est qu'une question vestimentaire, je suis le plus Azous d'entre nous. Car ma redingote traîne jusque par terre, je ne vois qu'à mes pesons couper tout.
Docteur avait compris que là se tenait l'esprit de tous les Azous.
On est de retour sur Radio Campus pour, avec une petite pause, ça nous dépasse
une
un petit
swing.
Peu, voilà, une pause
voilà.
swing.
Une pause Zazou.
C'était Johnny S donc avec le morceau Ils sont Zazou pour un peu conclure notre vision de Zazou des lendemains qui chante à voir jusqu'au 4 juillet au Théâtre Le Public. Sabine, un spectacle dont on va parler maintenant, Portrait d'Rita, c'est une reprise. Tu as vu évidemment un lien avec Salim Jaferi et tu le disais déjà tout à l'heure d'ailleurs.
Oui, enfin bon, c'est pas un lien
direct.
Enfin, comment dire oui, alors le lien c'est que ce sont tous les deux des spectacles, d'abord sont des seuls en scène, même si Salim, il n'est pas complètement seul.
Ok.
Dans le cas de Portrait de Rita, Bwanga Pilipili est seul sur scène. Et ce sont, je disais, c'est des spectacles qui nous laissent pas indemnes, parce que dans les deux cas, ce sont des spectacles qui interrogent nos regards. Nos regards, dans le cas de Salim Jaferi, on l'a dit, sur cette histoire, mais aussi sur l'altérité. Et dans le cas de Portrait de Rita, c'est vraiment, et dans le cas de Salim Jaferi aussi, ça interroge nos biais racistes, notre regard sur le racisme. Et en ce sens, ce sont, je trouve, tous les deux des spectacles confrontants. C'est-à-dire qu'on s'adresse à nous. Et dans Portrait de Rita, on s'adresse vraiment à nous. Ça nous bouscule sur notre manière de comprendre ou de lire l'épisode que nous raconte notamment Portrait de Rita, parce que c'est très dense et très riche comme texte et comme spectacle. Voilà, c'était
Rita.
Ça le lien.
Qui est Rita?
Alors Rita est une jeune femme camerounaise qui était une femme d'affaires au Cameroun et puis qui, par amour pour un homme, a émigré en Belgique. Elle s'est retrouvée près de Charleroi, je pense.
Latin-Lo, donc c'est dans la campagne wallonne.
Dans la campagne
namuroise, utoise.
Voilà, oui, c'était pas tout à fait Charleroi. Comment ?
Je pense que c'est le Condro.
Tout à fait.
Ah, dans le Condro, voilà. Donc elle s'est retrouvée dans le Condro avec cet homme qui, au final, ne l'a pas bien traité du tout. Et l'histoire commence, enfin, le texte, le récit commence avec. Donc Rita existe vraiment. Et elle a un fils qui s'appelle Mathis. Et Mathis. L'histoire commence comme ça, on appelle Rita, la police l'appelle pour lui dire que son fils...
Il y a un problème à l'école avec
voilà,
son fils.
Voilà, il y a un problème à l'école avec son fils, et puis voilà, on va se rendre compte que son fils se serait, soi-disant, rendu coupable de violence, et elle arrive à l'école et elle découvre son fils par terre avec le pied d'un... ou le genou d'un policier sur le dos, voilà. Sur la joue. Donc, si ça vous rappelle quelque chose, eh bien, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est un texte qui est écrit. Donc, c'est le récit de la vie de Rita, raconté par l'autrice Lorraine Marx, qui s'était fait connaître avec. Pour un temps soit peu. Et dit. Sur scène par et interprété sur scène par Bwanga. Alors évidemment, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas Rita qui parle dans la bouche de Bwanga. C'est pas un texte qui est écrit en jeu, et c'est très important. Autre question aussi, tu me diras ce que t'en penses, Nicolas, autre question que pose ce spectacle, c'est comment on raconte une histoire comme ça qui ne nous appartient pas. Voilà, peut-être je te laisse.
Oui, mais c'est ça toute la force, parce que quand on connaît le travail de Lorraine Marx, qui est d'abord un travail sur sa propre histoire, donc pour un temps soit peu, de personnes trans, qui a été victime de violence, de ségrégation, en tout cas de discrimination, et qui a dû se battre pour affirmer son identité, mais qui est aussi engagée politiquement contre les injustices. Ici, elle reprend en effet le récit d'une injustice, mais elle, en tant que personne blanche, ne se sentait pas légitime pour raconter cette histoire, ce parcours de femme noire. Elle la confie à une autre femme noire, Bwanga Pilipili, qui elle non plus se dit « je ne suis pas Rita, mais je vais raconter l'histoire de Rita parce que c'est mon travail, comédienne », parce qu'elles ont interviewé à deux Rita pour composer ce texte.
C'est vraiment le fruit effectivement d'une rencontre et d'une histoire à trois. En fait, c'est le fruit de cette histoire-là. Ce texte est le portrait donc de Rita. Mais ce texte dit aussi beaucoup de choses de Lorraine Marx et de Bwanga Pilipili. D'ailleurs, elles se je pense que Bonga Pilipili avait expliqué qu'elle avait rencontré Rita au moment où il y avait eu des manifestations en soutien parce que le délégué général aux droits de l'enfant avait lui aussi mis en lumière ce cas et cette histoire terrible qui était arrivée donc à cet enfant qui s'était fait vraiment brutaliser par des policiers dans son école, ce qui est quand même censé être un lieu sacralisé qui protège les enfants. Et donc voilà, oui, c'est l'histoire de cette rencontre à Troyes. Et sur scène, Bwanga Pilipili, là aussi, dans une très grande sobriété de décor, puisqu'en fait, il n'y a pas de décor du tout, là, pour le coup. Donc, elle est sur scène avec une robe, et sa robe est très frappante, en fait. Vraiment, on la retient avec... c'est une robe... comment la décrire avec, enfin, bref, oui. C'est une robe qui reste, c'est une image, oui, voilà, qui est colorée, qui reste dans l'imaginaire par rapport à la pièce. Et elle raconte avec un ton comme ça...
très calme, ouais, mais très... aussi à part...
par à-coup.
Et par l'interpellation du public en mettant l'accent... avec l'air de rien, comme ça, sur les choses qui font mal, en fait, et qui font et qui nous rappellent à chaque fois cette histoire de Rita. Il y a comme un refrain qui revient aussi, comme ça, dans ce spectacle, pour nous dire « elle n'a rien demandé, Rita, comme ça. Elle a dû se battre tout le temps pour pouvoir... pourquoi ? Pour juste être qui elle est et pouvoir vivre heureuse, hein, finalement. »
Ouais, il y a quelque chose qui rappelle dans la manière dont elle dit ce texte, il y a quelque chose qui rappelle le slam. Et elle dit d'ailleurs elle-même que c'est un stand-up. Mm-hmm. Elle dit stand-up triste.
C'est Lorraine Marx qui dit ça.
C'est Lorraine Marx. Et c'est vrai, j'entendais Bwanga Pilipili dire ça de ce que Lorraine Marx avait dit.
Elles se confondent, on va dire, dans cette écriture.
C'est-à-dire que dans cette écriture, elle se retrouve. Et puis on retrouve effectivement dans le texte cette poésie, cette force d'écriture de Lorraine Marx, qui a quand même une écriture géniale, faut bien dire, qui nous prend, mais avec force, et qui nous prend aux tripes, et elle écrit avec, elle envoie des vannes, et elle a une écriture très orale, mais en même temps une oralité qu'elle retravaille,
poésie,
évidemment.
Oui. Ouais. En tout cas, Portrait de Rita de Lorraine Marx avec Bwanga Pilipili, c'est à voir du 10 au 13 juin au Rideau. Ça reviendra aussi encore certainement. Ça tourne en France, c'est déjà prévu en reprise au Festival d'automne à Paris au mois de décembre. Ça a été nommé au Molière également. Bref, voilà pour Portrait de Rita. Rendez-vous sur lerideau.brussels. On va clore cette émission avec deux annonces contes, Elisabeth.
Mais oui. Parlons d'oralité, même. Alors, on a les Dimanches du Conte. Alors ça, c'est au Centre Bruegel tous les dimanches. Et il y a plusieurs spectacles qui se succèdent selon les heures. Et la thématique, c'est la langue maternelle. Donc, voilà. Et puis, il y a le 11, c'est un peu plus tard, le 11 juin, le départ de Conte en balade. Alors là, le principe... on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais le principe, c'est un rendez-vous dominical dans un parc à Bruxelles avec un conteur ou une conteuse professionnelle qui raconte, qui enchaîne les histoires, en fait, et qui vous emmène en balade dans ces parcs de Bruxelles qu'on découvre comme ça. On fait une petite pause, on s'écoute une petite histoire, wow. On repart, on s'assied où on peut, sur des troncs d'arbres, où on reste debout. Parfois il pleut, parfois il y a des avions qui passent. Mais voilà, c'est sympa, ça coûte 3 chiclettes, et puis ça permet aussi de retrouver une réalité un peu directe, sans projecteur, sans scène sous les pieds, enfin quelque chose de qui fait du bien, si on aime ça, évidemment. Et puis les histoires sont parfois en lien avec les lieux, c'est pas gagné d'avance, ça dépend des lieux, mais les lieux sont assez surprenants, et tout le programme est bien évidemment sur le site.
Contesenbalade.be pour tous les rendez-vous de ces Contes en balade.
Dimanche du Conte.
Et Dimanche du Conte, dimanche au pluriel. Voilà. .be également pour tous les rendez-vous au Centre Bruegel. Merci Elisabeth.
Mais merci à toi Nicolas.
Merci Sabine.
Merci Nicolas.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres propositions théâtrales parce que la saison n'est pas finie.
Et non.
Et voilà. Non.
Bonne planche à tous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Constelación.